Et si une partie de ce que vous admirez en France était un cadeau? L'œuvre discrète de philanthropes juifs qui n'aimaient qu'une chose plus que la réussite, leur pays. Les philanthropes juifs, français avant tout.
Imaginez, nous sommes en 1907. Dans les bureaux de l'Institut Pasteur, à Paris, le directeur ouvre le testament d'un certain Daniel Ifla, que d'aucuns connaissent sous le nom d'Osiris. Il s'agit d'un legs, 36 millions de francs or, 130 millions d'euros. Les exécuteurs testamentaires, dont l'ancien président de la République, Émile Loubet, sont sous le choc. Ce legs est vertigineux. Il est, jusqu'à aujourd'hui, le don le plus important jamais reçu par l'Institut Pasteur, qui va lui donner les moyens d'envisager son avenir avec ambition. Acquérir des terrains dans le 15e arrondissement de Paris, contribuer à la création de l'Institut du Radium, l'ancêtre, pour aller vite, de l'Institut Curie. Mais qui est ce Daniel Ifla ?
Né le 25 juillet 1825 à Bordeaux, dans une famille modeste de la communauté juive séfarade, il descend des Juifs chassés d'Espagne en 1492 par le décret des rois catholiques Ferdinand et Isabelle. Adolescent lorsqu'il monte à Paris, il entre comme petite main chez un agent de change. Il apprend le métier vite. Si vite qu'il fait fortune en participant aux grandes affaires du Second Empire. Une tragédie va le briser. Alors que l'exposition universelle s'installe à Paris en 1855, son épouse Léonie Carlier, qu'il aime éperdument, meurt. Daniel Ifla a 30 ans, il ne se remariera jamais. Veuf et sans enfant, c'est de cette douleur qu'il se fait Osiris. Il construit, il donne, il répare. 6 fontaines Wallace à Bordeaux, un pavillon chirurgical à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, la statue d'Alfred de Musset devant la Comédie Française, déplacée aujourd'hui au parc Monceau. Il rachète le château de Malmaison, le restaure, l'offre à l'État. Ancêtre direct des Restos du Cœur, il ouvre à Bordeaux un bateau-soupe et finance des synagogues, comme celle de la rue Buffault, dans le 9e arrondissement de Paris. Son dernier combat, obtenir du consistoire d'être inhumé à la frontière exacte des cimetières juifs et chrétiens de Montmartre, pour rester proche de Léonie à jamais.
Léger retour arrière, au tout début du 19e siècle. Un jeune homme arrive de Francfort à Paris. Il s'appelle James de Rothschild. En quelques décennies, il devient l'homme le plus puissant de la finance européenne. Sa fortune est colossale et l'ampleur de son action philanthropique phénoménale. Avec son épouse Betty, dont les loteries caritatives au château de Ferrières animent le tout Paris, il finance des hôpitaux, des crèches, des maisons de retraite. Il participe à la construction des grandes gares de France, comme la gare du Nord. Le couple est aussi à l'origine de l'hôpital Rothschild, rue Picpus, ouvert en 1852, et consacre des millions à la construction de logements populaires bon marché. L'un de leurs fils, le baron Adolphe de Rothschild, après une opération à l'œil, décide de créer un hôpital destiné au traitement des maladies des yeux et de la tête. La fondation Rothschild, c'est son nom, face au parc des Buttes-Chaumont, est inaugurée en 1905. Clin d'œil de l'histoire, James de Rothschild financera les débuts prometteurs d'un certain Émile Pereire, qu'il appelait, avec une affection teintée d'ironie, le petit Pereire. Il ne savait pas encore que l'élève allait surpasser le maître.
Émile et Isaac Pereire. Deux frères, nés à Bordeaux dans une vieille famille séfarade, arrivés à Paris dans les années 1820 sans fortune et sans réseau. Ils vont littéralement transformer le visage de la France. On leur doit les réseaux ferroviaires centralisés, la gare Saint-Lazare, les beaux immeubles haussmanniens du quartier de l'Europe. Mais leur chef-d'œuvre, c'est Arcachon. La ville est déjà une station balnéaire réputée. Émile Pereire a l'idée géniale de créer une ville d'hiver dont l'air, affirme-t-il, est propice à la guérison de la tuberculose. Une formidable opération de communication lance la station en présence de l'empereur Napoléon III, de sa femme, l'impératrice Eugénie, et de leur fils. Le tour est joué. Hommage rendu à l'ancêtre Jacob Pereire, pionnier de l'éducation des sourds au XVIIIe siècle, ils financeront aussi des établissements destinés aux sourds-muets.
Retour à Paris. Entrons maintenant dans un hôtel particulier de la rue de Monceau. Il faut le traverser lentement, pièce après pièce. C'est le musée Nissim de Camondo. Les Camondo étaient la famille juive séfarade la plus puissante de l'Empire ottoman. Anoblie en 1867 par le roi d'Italie Victor Emmanuel III, il s'installe à Paris. 1917, la France est en guerre. Moïse de Camondo perd son fils, Nissim, mort au front. Terrassé par la douleur, il lègue cet hôtel particulier, qui lui était destiné, aux arts décoratifs, demandant qu'il soit présenté comme une maison habitée, pas comme un musée. Moïse meurt en 1935, avant que sa fille Béatrice, ses petits-enfants et son gendre soient déportés et exterminés à Auschwitz, ce qui entraînera l'extinction de la branche directe des Camondo.
Clara de Hirsch est elle aussi inconsolable après la mort de son fils Lucien. Née à Anvers en 1833 dans une famille de banquiers, elle épouse à 22 ans le baron Maurice de Hirsch, que ses contemporains considèrent comme le banquier le plus riche d'Europe. Le décès de son fils va la conduire à s'occuper principalement d'éducation comme levier d'intégration. À Paris, on lui doit la création de l'école Lucien de Hirsch, avenue Secrétan, destinée à l'origine à offrir une éducation de qualité aux enfants défavorisés. Elle soutiendra aussi l'Institut Pasteur. Mais la France n'est pas son seul terrain. Elle va, avec son mari, permettre à des dizaines de milliers de juifs de Russie, fuyant les pogroms, de s'installer en Argentine, où elle finance des fermes agricoles pour qu'ils deviennent économiquement autonomes. L'ensemble des fonds consacrés à ses œuvres est colossal. D'ailleurs, Osiris, dans son testament, réserva une somme pour ériger un monument en l'honneur de deux femmes de bien, symbolisant à ses yeux la bonté et la charité. Marguerite Boussicot, fondatrice du Bon Marché, et la baronne Clara de Hirsch. Il associe ainsi, dans son hommage à la charité, catholicisme et judaïsme, alors que le capitaine Dreyfus venait tout juste d'être réhabilité. Cette statue existe. Elle se trouve Square Boussicot, à l'angle de la rue de Sèvres et du boulevard Raspail, à Paris.
Nous sommes à l'automne 1893, boulevard Haussmann, à Paris. Un homme monte dans un omnibus. Il s'appelle Théophile Bader, né en Alsace, dans une famille juive locale. Il aperçoit depuis la fenêtre une pancarte « Bail à céder » au coin de la rue Lafayette et de la chaussée d'Antin. Il informe aussitôt son cousin Alphonse Kahn, lui aussi juif alsacien, dont la famille a fui l'annexion prussienne de 1870 par amour de la France. Les deux hommes s'associent sur une poignée de main. Les galeries Lafayette viennent de naître. En 1914, Théophile Bader participe financièrement à l'installation d'un hôpital modèle au Grand Palais. En 1932, il invente Monoprix. Le premier magasin voit le jour à Rouen, avec pour devise « Mettre le bon à la portée de prix ». Terminons ce rapide tour de table avec le rêve fou d'Albert Kahn, français juif d'origine alsacienne lui aussi, banquier, philanthrope et curieux du monde. De 1898 à 1931, il constitue les archives de la planète afin de conserver les traces visuelles des vies quotidiennes des hommes sur tous les continents. Car pour ce pacifiste, qui ne jure que par la paix universelle, voir, c'est ne pas haïr. Il finance l'envoi de photographes et de cinéastes dans une cinquantaine de pays. Le projet rassemble environ 72 000 photographies en couleur et plus de 180 000 mètres de films, l'un des plus importants témoignages visuels du monde d'avant la Seconde Guerre mondiale. Albert Kahn crée aussi, à Boulogne, un vaste domaine paysager de plus de 4 hectares, mêlant jardins japonais, forêts vosgiennes et prairies anglaises. S'y croise le tout Paris, curieux de cette diversité. Vous pouvez vous aussi vous y rendre, 2 rue du Port, à Boulogne-Billancourt.
Dans la France du 19e et du début du 20e siècle, ces femmes et ces hommes ont participé à la grandeur de la France, alliant dans un même souffle la tradition juive de la Tzedaka et les valeurs républicaines. Ils ont aimé leur pays, passionnément.